France Culture.
Ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Vous aurez certainement reconnu la musique de la série télévisée Les envahisseurs. Dans notre cas, ce ne sont pas des martiens, mais bien des êtres humains. Violents, conquérants, dominateurs, ils ont redessiné les frontières au gré de leurs ambitions, brassé les peuples, les idées, les langues et les religions. D'Alexandre le Grand à Hirohito, en passant par Attila, Genghis Khan ou la reine Victoria, ils ont conquis les plus grands empires de la Terre et, chacun à leur façon, ils ont changé le monde.
J'ai eu une vision. Elle ne concernait pas seulement moi. J'ai reçu comme un message. Je me rends compte que cela paraît étrange. Mais j'ai vu comment régner sur le monde. J'ai vu que jusqu'ici, je n'étais pas inspiré. Je regardais Pompée et soudain, toutes ses faiblesses se sont révélées à mon regard. J'ai vu qu'il n'était pas inspiré et qu'il ne le serait jamais. C'est pour cela qu'on est si différents. Pompée prend son destin comme il vient. Moi, je le domine.
Vous l'aurez reconnu, notre envahisseur n'est autre que Jules César, le fossoyeur de la République romaine, le patricien populaire, le conquérant des Gaules, mais pas que. Né en 100, mort en 44 avant notre ère, c'est l'homme qui a transformé l'histoire de l'Europe. Pour évoquer la figure historique de César, j'accueille aujourd'hui autour de moi trois grands spécialistes de l'histoire romaine. François Cadieu, bonjour.
Bonjour.
Christophe Badel, bonjour.
Bonjour.
Et à ma gauche, tout de suite, pour commencer ce questionnement sur le personnage réel de César, je me tourne vers ma voisine, Stéphanie Wheeler, bonjour.
Bonjour.
Stéphanie, vous êtes maîtresse de conférences en histoire et anthropologie des mondes romains à l'Université de Paris-Cité et directrice du laboratoire Anima, qui se spécialise dans l'anthropologie de l'Antiquité. Vous avez également participé à la nouvelle traduction des Guerres de César aux éditions des Belles Lettres.
Oui, absolument, paru en 2020.
Alors, cette vision de César qu'on vient d'entendre, cette expression d'une ambition démesurée, dévorante même, est-ce que c'est la clé du personnage ?
Alors, c'est une des clés, si on accepte l'écriture historiographique qui a retravailler ce personnage et les propres sources qu'il a écrites lui-même.
Qu'est-ce qu'on sait de son ambition réelle de l'époque, hein, 100 ans, par rapport à l'historiographie ultérieure ?
Son ambition, en tout cas, le personnage que les historiens de l'Antiquité eux-mêmes ont réécrit sur ce profil, en font effectivement un ambitieux depuis son enfance, depuis donc une situation de famille avec un fort sentiment de déclassement, puisqu'il était issu d'une famille patricienne, donc de la vieille aristocratie, mais avec des revers de fortune, donc pas tous les moyens de ses ambitions. Et sans doute a-t-il construit déjà, dès le début, en tout cas un sentiment de vengeance sur la vie, compte tenu de son enfance difficile.
Alors, pour comprendre cette... Disons, cette clé possible de lecture qui serait la vengeance sociale comme un des moteurs psychologiques de Jules César. Qui, au fond, est Jules César ? Je parle de l'être humain plutôt que du mythe, pas de cette statue, cette figure tutélaire césaropapiste qui a érigé un peu l'Occident depuis 2000 ans. Je parle du vrai Caius Iulius Caesar. Alors, né quoi ? Aux alentours du 12 juillet de l'an 100. Quelle est son identité sociale, son parcours ?
Alors, de sa famille, donc, c'est cette vieille aristocratie donc qui a des prétentions, mais pas les moyens tout à fait de ses prétentions. Donc, d'une vieille famille, les Iulii, donc, qui n'est plus au premier rang de la politique au moment où naît César. Et d'autre part, son père, Caius Iulius Caesar aussi, meurt quand César...
Troisième du nom,
meurt quand notre César a 15 ans. Ce qui fait que ça coupe aussi une partie de ses ambitions politiques qui, de toute façon, du fait d'une fortune relativement réduite, était difficile à construire. Par ailleurs, il grandit donc pendant cette adolescence où il perd son père, il grandit pendant les guerres civiles, où il voit des retournements de situation importants. Lui-même, par sa famille, par alliance, il est apparenté à Marius, et donc qui tient Rome pendant un certain temps, et Sylla vient remplacer Marius, ce qui fait que lui-même, César, se retrouve en situation extrêmement délicate. Sylla ne le fait pas assassiner tout de suite, mais il y pense, donc il se retrouve dans cette situation extrêmement précaire, à la fois financièrement et politiquement, quand il commence sa carrière politique.
Physiquement, il est comment ? C'est un grand costaud ? C'est un type sûr de lui ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelqu'un de même physiquement fragile, dont certaines personnes se moquent ?
Alors, physiquement, il est résistant, mais il est aussi souvent malade. Donc, jeune, pendant qu'il fuit justement Rome contre Sylla, il tombe régulièrement malade. On sait qu'il était épileptique aussi, évidemment. Donc, il a un portrait contrasté, à la fois séduisant, courageux, résistant, et en même temps avec des faiblesses. Donc, effectivement, on n'aurait pas forcément misé physiquement sur ce personnage dès sa jeunesse.
Et je vois que Christophe Badel a envie d'ajouter quelque chose pour dresser ce portrait.
Oui, je voudrais nuancer un peu le portrait de la déchéance sociale. Quand on voit le dessin de la famille, on voit qu'en effet, c'est une famille qui remonte au 5e siècle, qui a connu ensuite un passage à vide, mais qui est sur le retour au premier plan depuis la deuxième moitié du 2e siècle. Et vous avez eu déjà 2-3 membres de la famille qui ont été consuls donc à la fin du 2e siècle. Et juste avant la génération de César, donc vous avez 2 cousins qui ont été consuls, dont l'un a été à l'origine d'une des lois qui a accordé la souveraineté romaine à l'ensemble de l'Italie en 89 avant Jésus-Christ. Son oncle a été consul, son grand-père avait été consul aussi. Et si son père ne l'est pas, c'est parce qu'il meurt trop tôt. Pour l'être, donc il est frappé par la mort au niveau de la préture, ce qui était finalement un destin assez courant dans les familles romaines.
Et d'accord, certes, mais alors pourquoi est-ce que Suétone, qui est donc son premier biographe en termes de chronologie, pourquoi est-ce que Suétone insiste sur le fait qu'il soit né à Subure ? Est-ce que c'est un marqueur social de naître dans le quartier pauvre près du Tibre, là où est la prostitution, là où est peut-être la malaria, qui est la fièvre carte, qui est sa maladie ?
Alors, il a grandi à Subure, Suétone le précise en effet, donc un quartier populaire, pas toujours bien famé, mais encore une fois, il n'y avait pas de division de quartier aussi claire qu'on peut le voir dans certaines villes aujourd'hui. Alors, il n'est pas dans une maison, une des grandes maisons aristocratiques du Palatin, ça c'est évident, mais voilà, donc ça reste un quartier populaire, mais dans lequel il peut y avoir des maisons, malgré tout, tout à fait respectables. Et encore une fois, lui-même avait tout ce qu'il fallait d'esclaves. Il a eu un bon précepteur, un esclave gaulois. Tout l'entourage, en tout cas, suffisant pour son éducation.
Et alors là, je vais me lancer dans un dangereux anachronisme, en présence d'historiens. C'est quoi les partis politiques à Rome ? C'est quoi Populares et Optimates ? Est-ce que ça correspond à progressistes et conservateurs, à gauche et droite ? Et comment est-ce que César, ou plutôt d'ailleurs son clan familial, s'inscrit là-dedans, selon vous ?
Alors, César, donc, par ses alliances familiales, se rattache au clan des Populares, donc de Marius, Cinna et d'autres. Pour faire simple, donc c'est des aristocrates romains qui veulent privilégier les intérêts du populus, du peuple, notamment dans la distribution des richesses, redistribution des richesses, et donc dans la distribution des terres davantage distribuées au peuple que accaparées par les optimates, donc le camp inverse, donc autoproclamés les meilleurs, qui effectivement donc du côté de Sylla cette fois-ci vont davantage être tournés vers les intérêts de l'oligarchie sénatoriale qui s'accapare ses richesses.
Donc César s'inscrit dans le parti populaire.
Alors, il s'inscrit dans le Parti populaire, mais en ayant toujours l'intention de rester à la tête de ce parti. Donc, ce n'est pas non plus une redistribution du pouvoir politique, c'est une redistribution des richesses, donc avec une aristocratie qui reste à la tête de ce parti.
C'est un parti populaire ou c'est un parti populiste ? Est-ce que, à votre avis, César, et d'ailleurs les populares qui dans autour de lui, est-ce que c'est des gens qui sont sincèrement pour améliorer les conditions sociales des classes les plus pauvres en se disant que c'est important pour que l'équilibre politique de la République romaine se maintienne ? ou est-ce que, dans le fond, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des populistes, c'est-à-dire qui s'appuient sur la misère, la colère du peuple, j'en sais rien, le nombre, disons, pour, en gros, asseoir un pouvoir personnel, d'ailleurs, parfois très autoritaire.
Oui, je pense qu'on est plutôt du côté du populisme, d'une façon générale, et de la démagogie. Mais l'appui sur le peuple, c'est un vrai appui politique aussi. Et puis, c'est le peuple de Rome, mais c'est aussi le peuple de toute l'Italie, hein, puisqu'il y a eu un changement social important en Italie, hein, puisque donc les anciens alliés de Rome ont été intégrés dans le corps civique à l'issue de la guerre sociale. Ce qui fait que il y a aussi cette partie-là qu'il faut intégrer, qui devient un soutien extrêmement fort pour permettre à ces élites populares de prendre le pouvoir ou de se maintenir au pouvoir.
Oui, alors Christophe, hein,
pour défendre les populaires, ouais. Tout de même. Ah. Il y a tout de même certains historiens qui mettent en valeur, je dirais, le caractère démocratique de leur action. Hein, donc là, on peut dire populaire et non populiste, avec des réformes initiées par les Gracques, comme des distributions de blé, d'abord à prix réduit, puis totalement gratuit envers les citoyens, comme des distributions de terres, comme l'ouverture des tribunaux à des gens extérieurs au Sénat, c'est-à-dire qu'il y aurait chez les populaires un projet tout de même de donner aux citoyens, et en latin populus désigne d'abord le corps civique, de donner aux citoyens un rôle plus important dans la vie politique. Alors actuellement, il y a un grand débat au sein des historiens de Rome sur le caractère démocratique de la Rome, de la fin de la République, et sur le caractère démocratique des différents acteurs et des différents partis. Mais il faut tout de même souligner cette lecture qui a pour elle tout de même des arguments.
Et d'ailleurs, il y a quand même une ouverture du vote, rappelons-le, enfin, ne serait-ce que pour le grand pontife. Il y a un mouvement vers le vote populaire à l'époque.
Alors, disons que le grand pontife, ça a été un retour à une situation antérieure, à savoir que le vote du grand pontife par la moitié de l'assemblée du peuple et comme il se tribute remonte déjà à la fin du IIIe siècle.
Mais ça a été annulé par Sylla.
Oui, Sylla l'avait annulé. Et donc après sa mort, et sa retraite, on va y revenir. Mais concernant par exemple les autres collèges de prêtres, et là c'est plus récent, on voit qu'en 102, auparavant les collèges de prêtres se recrutaient par cooptation. Donc c'est un rôle important dans la vie de César, puisqu'il a été pontife, il a été flamine, puis pontife avant d'être grand pontife, on voit bien. Et donc c'était la cooptation qui régnait, et justement, en 102, la loi Domitia décide que ça sera l'élection par le peuple, selon les procédures comparables à celles du grand pontife, c'est-à-dire non pas toute l'assemblée du peuple, mais une moitié, pour simplifier, de l'assemblée du peuple. Donc là, vous avez raison, il y a bien une sorte de volonté démocratique, par exemple, dans l'élection des prêtres, qu'il ne faut pas oublier à Rome, sont aussi des acteurs politiques. Il n'y a pas de différence entre politique et religion à Rome. Donc, dans l'élection des prêtres, il y a bien, là, en effet, une mesure démocratique.
Et peut-être aussi le renforcement du pouvoir des tribuns de la plèbe. Enfin, c'est quand même des signes, des gages en faveur de
exactement,
ce qu'on appellerait aujourd'hui des contre-pouvoirs, finalement.
Alors, depuis les Gracques, en effet, les tribuns de la plèbe, qui existaient depuis le début de la République, mais qui s'étaient, pourrait-on dire, un peu endormis au cours des 3e, 2e siècles, les tribuns de la plèbe font un retour en force comme élément, précisément, à la fois de contestation du pouvoir du Sénat et de démocratisation de la vie politique, et aussi bien en termes de projets de loi qu'en termes de pratiques concrètes. On peut les considérer comme des acteurs d'une pratique plus démocratique de la vie politique à Rome lors du dernier siècle.
Et alors, Stéphanie, on parlait donc de cette ambition de César, donc qui s'inscrit dans un lignage politique qu'on pourrait affilier, disons, à Marius, puisque César n'a pas de père, mais il a donc un oncle qui est Marius. Quelle est l'autre grande figure politique, enfin disons politico-militaire, qui a l'air de marquer César? Je pense à cet épisode sidérant à Gadès lors de son premier mandat comme édile.
Oui, alors ça, on ne sait pas quand est-ce qu'il a commencé à y penser, mais évidemment, tous les Romains qui ont de l'ambition politique à cette époque ont comme modèle Alexandre le Grand, évidemment le roi de Macédoine qui a conquis cet empire tout à fait impressionnant. On a cet épisode qui est raconté un peu différemment chez Plutarque et chez Suétone, de César qui arrive comme questeur, soit comme prêteur, suivant les cas. Donc l'âge, c'est soit 30 ans, soit 40 ans à peu près, à Cadix, à Gadès, où il voit une statue d'Alexandre d'Alexandre le Grand dans le temple d'Hercule.
Rappelons-le, Cadix, c'est face aux colonnes d'Hercule, et donc c'est là où, enfin, c'est-à-dire absolument, face au détroit de Gibraltar. Donc il y a ce grand temple. C'est et dans ça, ce temple, il y a une statue d'Alexandre, en plus de celle d'Hercule. Et là, qu'est-ce qui lui arrive?
Et là, il se met à pleurer en disant, mon Dieu, à mon âge, je n'ai, donc du coup, plus, l'orientation vers 30 ans est plus intéressante. À mon âge, je n'ai encore rien conquis, alors que Alexandre avait déjà conquis tout son empire. Donc effectivement, alors peut-être que c'est une réécriture rétrospective, mais le modèle d'Alexandre reste une référence pour tous les personnages de cette époque. Hein. Pompée s'appelle Pompée le Grand, en référence à Alexandre, évidemment. Donc cette ambition de conquête d'un empire, alors pas vers l'Orient, pas vers l'Est comme Alexandre, mais vers l'Ouest, hein, les colonnes d'Hercule, c'est la limite du monde occidental. Donc là, on peut aller plus au nord, notamment pour être en compétition dans cette volonté de conquête.
Et, à vos yeux, c'est une volonté de conquête qui est pour accroître le territoire romain, accroître ses richesses, tout ça, on va en parler. Ou est-ce qu'il y a une dimension... presque mythologique, c'est-à-dire de découvreur des mondes, d'aller par-delà, enfin, est-ce qu'il y a une dimension de découverte finalement, d'aller par-delà l'horizon, comme Alexandre?
Oui, il y a les deux aspects qui se combinent. Hein. Il a besoin de ses conquêtes pour avoir de l'argent, pour avoir du pouvoir, pour avoir de la gloire, mais arriver jusqu'aux confins du monde connu, on va dire, donc que ce soit le Grand Nord, la Germanie, etc. Effectivement, il l'écrit lui-même dans ses commentaires qu'il arrive. Enfin, il s'intéresse beaucoup à ses frontières, le passage du Rhin. Donc, il va décrire ces zones de confins avec cette figure, effectivement, de conquérant qui repousse les frontières du monde connu.
Et donc, toujours à Gadès, Cadix, aujourd'hui en Andalousie, il y a cet autre épisode raconté par ses biographes qui est très étrange, pour le coup. C'est non pas les larmes devant la statue d'Alexandre, mais c'est des rêves étranges, des rêves érotiques. Qu'est-ce qui lui arrive ?
Oui, alors ça, on raconte aussi, on aime bien raconter les signes envoyés par les dieux. Donc, il aurait fait un rêve qui l'a bouleversé où il violait sa mère. Donc, effectivement, il va en parler à des prêtres. Hein. Les rêves, ça peut être des signes qu'il faut interpréter. Et
il est quand même embêté, c'est quand même un peu embêtant.
Voilà,
l'inceste est un tabou complet à Rome.
Absolument. Et du coup, les prêtres auraient interprété dans le sens d'une interprétation allégorique en disant ta mère, ce n'est pas ta mère, c'est le monde. C'est-à-dire que tu vas embrasser le monde, tu vas conquérir le monde. Donc évidemment, c'est une interprétation qui lui convenait bien. C'est un signe de prédestination de conquête absolue. Encore une fois, César, souvent, les signes, il les prend dans un sens ou dans l'autre.
Et est-ce que... pour vous, il est devenu conquérant par opportunité, parce que là, ça s'est présenté à lui, ou est-ce que, au fond, depuis sa naissance, il se rongeait les ongles en disant « je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller ». Je pense à cette citation bouleversante de Plutarque, donc son deuxième, vous en parliez, c'est son deuxième biographe, chronologiquement, sur cette ambition qu'il avait, enfin, c'est quoi la phrase exacte d'ailleurs ?
La phrase exacte, enfin, elle est un peu plus longue, mais elle se résume à « il était jaloux de lui-même ». En réalité, c'est un insatisfait à vie, donc il est toujours dans une course en avant. Alors, la course en avant, elle s'explique parce qu'il a toujours besoin de plus d'argent pour avoir plus de pouvoir, et donc la conquête vient s'inscrire dans cette logique, effectivement, de course en avant. Mais par ailleurs, dans plusieurs pans de sa vie, il a besoin d'être le premier. Il a toujours besoin d'être le premier, sauf en rhétorique où il veut bien être le deuxième après Cicéron, nous dit-il. Ils ont eu le même prof à Rhodes. Mais voilà. Mais sinon, donc, il veut toujours conquérir plus, et tout ce qu'il obtient, nous dit Plutarque, eh bien, une fois qu'il l'a, ça n'est pas assez. C'est pour ça que donc ces conquêtes, alors la guerre des Gaules, on va en reparler tout de suite, mais il y a eu un effet aussi d'opportunité qui s'est présenté à lui. Mais une fois qu'il a tous les pouvoirs à Rome, il va continuer à avoir des grands projets, à vouloir détourner le cours du Tibre, etc. Donc il ne s'arrête jamais. Et donc cette notion de jalousie de lui-même.
Il est jaloux de lui-même. Il est anxieux non pas d'être meilleur que les autres, mais d'être meilleur que la vision qu'il a de lui-même.
C'est ça.
Joignez vos forces aux miennes et à celles de mes ascendants. Tel Marius qui est mort d'avoir défié Sylla, d'avoir voulu une Rome plus juste. Ma maison est celle des Julie, dont Vénus est l'ancêtre. Il y a donc dans notre famille à la fois l'autorité des rois comme aîné, qui parmi les hommes a eu les pleins pouvoirs, et la majesté des dieux qui prédomine même sur les monarques. Je vous offre ma destinée, sans peur ni hésitation. Mais tâchons de construire cette Rome idéale et passons-la sur un empire où la paix sera garantie et où la dignité sera loi.
France Culture, ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Je me tourne à présent vers François Cadieu. Est-ce que ces paroles sont les premières paroles réelles qu'on connaisse de César, à votre avis ?
Alors déjà, ce sont des paroles qui, quelque part, nous donnent à penser que César est un bâtisseur d'empire, ce qui peut-être mériterait d'être un peu relativisé, puisque quand César commence à apparaître sur la scène politique, ça fait quand même un siècle, que Rome domine le monde habité, hein, selon les critères qui sont ceux des Romains, hein, puisqu'on considère qu'à partir de 168 avant Jésus-Christ, Rome est la superpuissance de la Méditerranée, le peuple romain sans rival, et donc effectivement, c'est un peu quand même, me semble-t-il, une erreur de perspective que de considérer que César aurait bâti l'Empire romain.
Seul.
C'est un peu ce que l'extrait laisse entendre. Nous bâtirons un empire. Alors que là, en fait, il est aussi le produit hein, d'une culture impériale qui lui préexiste et qu'il va évidemment approfondir.
Donc ces paroles donc qui datent de 69 avant notre ère, donc c'est l'homélie qu'il prononce à la mort de sa tante, hein, Julia, sont quand même authentiques, non ? Enfin, de ce qu'on en sait.
Je ne sais pas si on peut lancer le débat sur l'authenticité des paroles prêtées à César. On sait que même ses plus grands mots, hein, « toi aussi, mon fils », etc., sont probablement apocryphes et servent, comme ça a été dit par Stéphanie Willer tout à l'heure, la construction a posteriori du personnage, hein, construction dont nous sommes complètement dépendants. Mais il me semble qu'il est indéniable que César, comme on l'a dit, avait l'ambition d'être un conquérant, mais il faut peut-être rappeler aussi qu'il était peut-être, il avait cette ambition pour lui-même, mais il l'avait aussi et surtout, en tout cas, c'est comme ça qu'il l'affiche, pour le peuple romain. C'est d'être une des chevilles ouvrières d'une supériorité, hein, cette fameuse majesté du peuple romain, dont les aristocrates, les patriciens, les nobles, d'une manière générale, tiraient légitimité sociale et politique. C'est aussi comme ça qu'il faut lire, évidemment, l'ambition de César.
Alors justement, ça me permet de vous présenter. Je rappelle, François Cadieu, que vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université de Bordeaux-Montaigne, rattaché au laboratoire de recherche Ausonius. Vos recherches portent justement principalement sur l'histoire politique, militaire et sociale de la fin de la République romaine, donc 2e, 1er siècle avant notre ère. Votre dernier livre s'intitule « L'armée imaginaire, les soldats prolétaires dans les légions romaines au dernier siècle de la République », publié aux Belles Lettres en 2018. Et c'est une tentative pour déconstruire certaines idées reçues concernant l'évolution de l'armée romaine, justement à l'époque de César. D'où cette question que je vous pose, simple en apparence. Qu'est-ce qui fait la supériorité des légions romaines au moment où César, donc il sort de son consulat, pénètre en Gaule en 59-58 avant notre ère? Qu'est-ce qui va permettre à un général avec, quelques dizaines de milliers de soldats de subjuguer une nation avec 10 millions d'habitants?
Alors la réponse, c'est que ce n'est pas une nation de 10 millions d'habitants. C'est le premier élément, c'est-à-dire que César, lorsqu'il se voit confier le proconsulat des Gaules, donc Transalpine, Cisalpine et aussi d'Illyrie, il n'a pas l'ambition d'aller, se confronter avec un ensemble qui serait un ensemble politique unifié qui n'existe pas de toute façon. Donc le premier élément de réponse, c'est que de toute façon, les campagnes de César en Gaule ont été des campagnes qui ont été menées contre un certain nombre. Oui, et puis de manière dispersée. Et il a eu aussi, évidemment, le talent de faire en sorte que cette division perdure et ne laisse jamais la place, sauf en 52, à une coalition qui lui aurait poser évidemment énormément de problèmes, ce qui a été d'ailleurs le cas en 52.
Rappelons peut-être ce que c'est que la Cisalpine, la Transalpine, parce que les Romains appellent la Gaule, c'est la Cisalpine, c'est-à-dire pour nous en fait l'Italie du Nord.
Les Romains appellent la Gaule les régions qui sont donc peuplées par des populations qui sont celtes en fait, et il y en a dans la plaine du Pô. Donc, c'est ce qu'on appelle la Cisalpine, hein, donc en deçà des Alpes. Et puis, il y en a, évidemment, de l'autre côté des Alpes. Donc, c'est la Transalpine. Et ça nous rappelle quand même un point important, qui est quand même quelque chose que l'historien doit constamment prendre en compte quand il exploite la documentation, c'est que ce vocabulaire nous montre qu'on est toujours, au fond, dépendant d'un regard romain.
Puisque là, c'est la provincia, c'est ça?
Oui, mais c'est vu depuis Rome.
Donc, la provincia, je rappelle, oui, ça a quand même donné le mot Provence.
Provence, voilà. Parce que c'est la première province, en fait, en Gaule, et la seule, en fait, hein, jusqu'à la fin de la République, hein, puisque après la conquête des Gaules, l'intégration de la Gaule chevelue s'est faite, en fait, par extension, en fait, de la Transalpine, et non pas par la création d'une nouvelle province.
Donc vous employez ce mot de Gaule chevelue, donc la Gaule chevelue, c'est la Gaule non romaine, à l'époque où César arrive. Pourquoi est-ce que César décide de déborder ses frontières? Qu'est-ce qui le pousse à conquérir, du coup, physiquement?
Ce qui le pousse déjà, c'est le besoin que n'importe quel acteur politique romain a de valoriser ses atouts et de s'insérer dans la compétition politique grâce à des succès militaires. Et donc, pour avoir des succès militaires, il faut se définir des objectifs, quitte évidemment à les inventer. C'est un peu, d'une certaine façon, ce que fait César avec beaucoup de talent et de sens de l'opportunité lorsqu'il profite de quelque chose que ses adversaires au Sénat n'avaient absolument pas prémédité, à savoir cette fameuse migration des peuples helvètes vers la Saintonge, qui finalement fournit à César la possibilité, le prétexte, dirions-nous aujourd'hui, à entamer à bon droit des opérations militaires au-delà donc des limites qui étaient celles de sa province, avec l'idée justement d'engager ces opérations pour défendre ce qui était finalement l'empire du peuple romain. C'est-à-dire que ce que César fait, c'est se lancer dans des opérations militaires au nom des intérêts du peuple romain et non pas par ambition personnelle. Bien que, évidemment, ne soyons pas complètement dupes, ses adversaires pouvait dire le contraire.
Oui, mais alors, justement, vous en parliez un petit peu. La clé de voûte du système mental de César et peut-être romain de l'époque, c'est ce mélange des genres, finalement, entre le général et le politicien. Je pense à cette phrase de César. D'ailleurs, est-ce qu'elle est authentique ou pas? Est-ce qu'elle fait partie des phrases trop belles pour être vraies? Avec de l'or, on a des soldats. Avec des soldats, on a de l'or. C'est quoi la collusion entre les deux, disons, le civil et le militaire?
Alors, cette distinction entre civil et militaire, c'est une vision anachronique, c'est une vision moderne, c'est une vision que l'on a eu tendance à plaquer, en tout cas sur la société romaine de cette époque, en distinguant, disons, des aristocrates qui se consacraient davantage à l'activité militaire et d'autres à l'action politique. Ça, c'est quelque chose qui, finalement, est un contresens par rapport à la façon dont les hommes de cette époque voyaient les choses. C'est-à-dire que Christophe Badel a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de distinction entre le politique et le religieux. Il n'y a pas non plus de distinction entre le politique et le militaire, et par conséquent entre le militaire et le religieux non plus, puisque les victoires de Rome, les victoires du peuple romain, sont par définition des victoires qui témoignent du soutien, de la faveur dont les dieux font bénéficier les Romains. Et évidemment, quand ces victoires sont obtenues par un général qui détient son pouvoir du peuple romain, eh bien, le peuple romain éprouve de la reconnaissance envers celui qui a, au fond, mis les dieux de son côté et permis à ces dieux de soutenir cette supériorité, cette majesté du peuple romain. C'est un système, en fait, de représentation, on dirait aujourd'hui, un système idéologique, une axiologie qui explique
la guerre par les dieux
et qui explique aussi pourquoi César, au fond, ne pouvait être qu'un conquérant.
Ah, voilà. Mais pour autant, vous avez commencé à l'évoquer dans un cadre mental qui est celui du bellum iustum. Il faut que la guerre soit juste.
Oui.
Alors comment est-ce qu'on peut être une espèce de conquérant assoiffé de territoire et en même temps construire une rhétorique de guerre juste? C'est quoi une guerre juste d'ailleurs?
Alors, César n'est pas assoiffé de territoire, car les Romains ne conquièrent pas des territoires, ils soumettent des peuples qui vivent naturellement sur des territoires. Et c'est une différence importante, parce que dans l'Antiquité, on n'a pas, au fond, des armées qui viennent, comme les conquistadors, planter un drapeau quelque part. En revanche,
Il y a quand même une soif de territoire, soif de découverte. Quand il va en Bretagne, quand il traverse la Manche pour aller dans des terrains inconnus.
Non, ça, c'est une soif de prestige. C'est-à-dire que ce que César cherche en Bretagne, c'est, au fond, d'épater la galerie, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Alors, bien sûr, et s'il peut obtenir du butin, et si certaines des richesses, parce que l'île de Bretagne est réputée riche, s'il peut en faire profiter ses soldats lui-même et le peuple romain, c'est un bénéfice supplémentaire. Mais l'objectif principal, c'est, au fond, de faire, on parlait tout à l'heure de cette espèce d'exigence qui était d'être toujours le premier, c'est de faire quelque chose que personne n'avait fait avant lui.
Vous pensez qu'il n'y a pas de soif géographique, c'est César ? Quand il va en Germanie, qu'il décrit les grandes forêts, les aurochs
Personnellement, je pense que non, qu'il n'y a pas de... Il y a un intérêt intellectuel, un intérêt géographique. Il se livre d'ailleurs quand il est pro-prêteur en Espagne ultérieure à des mesures, quand il est du côté de la Corogne, etc. Mais ça, c'est aussi parce que on a dit pas de différence entre le politique, le militaire, le religieux. Bien, il n'y a pas de différence avec le savant non plus. Tout ça, ce sont les mêmes hommes. Et quelque part, réduire finalement cette attitude, qui est une attitude finalement d'aristocrate cultivé, à une sorte de d'appétit pour le monde. C'est trop réducteur.
Je vois que Christophe Badel veut dire quelque chose, mais j'aimerais juste que vous finissiez sur cette question de bellum iustum. C'est quoi la guerre juste ? Pourquoi est-ce que César invoque...
C'est bellum iustum ac pium, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette notion en fait de conformité, on va dire, au droit, mais au droit sacré aussi, c'est-à-dire que les dieux, au fond... les objectifs des Romains.
Et une guerre juste, du coup.
Et Suétone, quand il présente César, quand il présente, au fond, César comme chef de guerre, il dit il n'a jamais hésité à porter une guerre, à entamer une guerre, pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons. Alors, je ne le cite pas textuellement. Et de fait, certains de ses adversaires, on peut penser à Caton en 57, pensait que César avait mené des opérations qui n'étaient pas conformes à la guerre juste et avait même, paraît-il, réclamé qu'il soit livré donc aux Germains.
Pour avoir rompu une trêve. Oui.
Pour avoir offensé les dieux, en quelque sorte. Et quand on offense les dieux, on met en péril quelque chose. Qu'est-ce qu'on met en péril ? On met en péril le collectif, on met en péril le peuple romain. Donc, on porte atteinte à la majestas du peuple romain.
Les dieux vont se venger sur les
gens. Parce que les dieux vont abandonner les Romains.
Ouais, c'est ça. Mais donc, je repose quand même la question. C'est quoi une guerre juste ? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'être juste ? Qu'est-ce que les Romains justifient ?
La conformité à des règles
qui sont
de droit et des règles, disons, religieuses.
Donc on n'attaque pas le premier ou
et puis ensuite,
on n'attaque pas les faibles, on ne tape pas sur ceux qui ont des lunettes.
Ensuite,
c'est quoi j'exagère, mais c'est quoi les règles de
vous dites ça
de la violence. C'est quoi les règles de la bonne violence.
Les règles de la bonne violence, c'est l'intérêt du peuple romain. C'est-à-dire la sécurité du peuple romain, son intérêt, c'est-à-dire aussi le fait de pouvoir s'enrichir et accumuler effectivement de la puissance. Donc, vous aimez les parallèles avec l'époque contemporaine, on pouvait dire à une époque que tout ce qui était bon pour Ford était bon pour l'Amérique. Donc, tout ce qui est bon pour le peuple romain est acceptable pour les Romains comme motif de guerre.
Mais on a l'impression quand même qu'ils enrobent un peu leur volonté impérialiste de prétexte.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait de volonté impérialiste des Romains. En tout cas, il y a une idéologie impériale. C'est-à-dire, en fait, le peuple romain, par définition, est le peuple roi. C'est celui qui a vocation à dominer. Par conséquent, il domine. Alors, on peut appeler ça, effectivement, de l'impérialisme. Mais c'est surtout, en fait, l'expression d'une supériorité revendiquée. Et c'est à l'époque de César que ça se concrétise beaucoup. Et qui doit être reconnue. Et si elle n'est pas reconnue, alors on est comme le suévarioviste, on est un superbe, comme disaient les latins, c'est-à-dire un orgueilleux qui doit être vaincu.
Qu'est-ce qui fait la supériorité militaire des légions ?
Rome est une puissance militaire depuis longtemps. Elle l'est grâce à son organisation interne. C'est d'ailleurs ce qui fait l'admiration d'un grec comme Polybe au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui nous décrit dans le livre 6 de ses histoires la formidable organisation de l'armée romaine et aussi les règles qui précèdent à sa discipline et qui font que les légionnaires romains sont des combattants redoutables. Ça,
C'est l'armement, c'est la discipline, c'est la chaîne de commandement, c'est les sous-offres, les centurions.
C'est tout ça. C'est tout ça, mais ça, c'est pas spécifique en fait aux Romains. D'ailleurs, les Romains ont emprunté une bonne partie de leur pièces d'armement à d'autres, le bouclier aux Gaulois, la cotte de maille aussi, le glaive aux Celtibères, etc., etc., en les adaptant à leurs besoins. Donc, c'est pas ça la spécificité. Et d'ailleurs, les archéologues, par exemple, ont du mal à distinguer les armes gauloises des armes romaines dans les fossés alésiens. Ce qui fait la spécificité de l'armée romaine, c'est sa capacité à mobiliser des effectifs très importants. Ça s'explique, en fait, par le fait que Rome, à cette époque, mais ça fait déjà longtemps, est une cité, donc un peuple romain sans équivalent. Hein, c'est la plus grande des cités du monde antique. Or, l'armée romaine, les légionnaires romains, est recrutée parmi les citoyens romains.
Oui, mais là, attendez, je vous interromps. César le raconte, il est tout le temps en train de se battre en infériorité. Et si on parle d'Alésia, il y a 300 000 Gaulois face à lui, et lui, les Romains sont bien moindres.
Oui, mais parce que... les légions du peuple romain sont levées par le modèle de la conscription sur ordre du Sénat, qui confie aux chefs militaires un certain effectif, et cet effectif, pour des raisons qui sont essentiellement des raisons logistiques, n'est pas extensible à l'infini. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, César, et ça, c'est ce qui fait son originalité, va utiliser les bénéfices tirés de ses campagnes gauloises pour lever des légions supplémentaires à titre privé. Mmh. Hein, et il va demander en 56 à ce qu'elle soit remboursée par le Sénat, hein, « give my money back », il va recevoir l'appui de Cicéron pour cela. Et entre parenthèses, c'est, me semble-t-il, ce contexte qui, à mon avis, explique le fameux mot de Crassus, qui dit qu'on ne peut pas être riche si on n'a pas les moyens de lever une légion. Et à mon avis, contrairement à ce qu'on a souvent dit, c'est pas à lui-même que Crassus pense. C'est à César.
Alors, il faut qu'on avance un petit peu. Est-ce qu'on peut quand même parler de ce qu'a accompli en tant que conquérant César? Quelles sont ses plus belles conquêtes, ses plus grandes conquêtes?
Ses plus grandes conquêtes, c'est la conquête, effectivement, de ce que nous appelons, nous, à la suite de César d'ailleurs, la Gaule. Même s'il en a effectué avant, vous avez évoqué les grandes victoires qu'il avait obtenues, donc, sur les rivages atlantiques lors de sa propriéture. Hein. Il avait même la possibilité d'obtenir le triomphe. Il y a renoncé pour se présenter au consulat. Mais évidemment, il reste dans l'histoire. Et il a marqué l'imagination de ses contemporains, mais aussi évidemment de la postérité, surtout pour ce qu'il a accompli entre 58 et 51 en Gaule.
Le César d'Astérix, en fait. Hein. Alors, d'ailleurs, c'est une petite incise, c'est sérieux, Astérix, en termes de documentation militaire, historique, psychologique même?
Non.
Non?
Mais on ne peut pas le leur reprocher, puisque c'est une bande dessinée qui fonctionne, et c'est ce qui fait qu'on l'apprécie autant, sur l'anachronisme. Et en fait, il n'y a jamais eu, de la part de Goscinny ou d'Uderzo, la volonté d'être historiquement exact. En revanche, c'est une bande dessinée qui témoigne d'une grande familiarité de la part de Goscinny avec la culture classique. Alors, on sait qu'il utilisait les pages roses du petit Larousse, mais au-delà, on voit qu'il y a beaucoup d'allusions à, disons, des clins d'œil à ce que, on va dire, le public cultivé de l'époque pouvait connaître de l'histoire romaine de cette période.
Et alors, donc, vous parliez des conquêtes. Donc, la Gaule, certes, est-ce que la Germanie est un succès? Et est-ce que la Bretagne, c'est-à-dire aujourd'hui la Grande-Bretagne, sont des succès? Ou est-ce que finalement, César a quand même ses limites, hein?
Ça dépend comment vous définissiez le succès. Si on parle de succès militaire, non. Si on parle de succès politique et de succès, je dirais, de communication, alors oui, ce sont des succès extraordinaires, au point d'ailleurs que dans sa biographie, Suétone réduit quasiment le bilan des conquêtes de César entre 58 et 51 à ces deux expéditions en Bretagne et aux deux franchissements du Rhin. Donc ça montre bien que finalement, quelque part, on parlait tout à l'heure de conquête territoriale, c'est pas vraiment ce qui a frappé les esprits, puisque de toute façon, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était d'imposer l'imperium, c'est-à-dire l'autorité du peuple romain sur des peuples. Et plus ces peuples étaient barbares, plus ils étaient loin, plus c'était prestigieux.
Et est-ce que, je vois Christophe Badel a très envie de dire quelque chose.
Je voulais rebondir en effet sur ce que disait François sur le rapport au territoire. Oui. On est à un moment où justement dans l'impérialisme romain, les choses changent. Alors, impérialisme romain n'a pas existé en fait. Il n'y a pas de plan romain de conquête du monde, absolument pas. Simplement, on est à un moment où les Romains se rendent compte qu'en fait, ils dominent le monde. Et ils sont en train de se rendre compte qu'ils atteignent peut-être aussi les limites du monde. Alors, c'était pas du tout voulu au départ, mais il y a cette sensibilité qui apparaît à la fin de la République. Et du coup, évidemment, les expéditions de César du côté de la Bretagne, en Germanie, et son projet d'aller ensuite conquérir les Parthes, qui n'a pas pu réaliser, c'est cette volonté aussi, finalement, d'unifier le monde connu. Il semble qu'en raison même de la protection des dieux, les Romains sont amenés, finalement, à dominer tout le monde habité. Et alors, c'est cette idéologie va être théorisée à l'époque d'Auguste, sous l'Empire sans fin, mais cette sensibilité, elle apparaît en fait à la fin de la République. Il y a une sorte de prise de conscience, en disant « Ah mais on domine en fait le monde connu, autant vraiment toucher à toutes ses limites. » D'où l'importance cruciale, qui n'est pas qu'idéologique, enfin de ces expéditions en Bretagne ou en Germanie. Et dans le rapport au territoire, on est aussi à un moment où précisément pendant longtemps, les Romains n'ont pas cherché à faire de conquêtes. Les Romains en fait assuraient leur domination par des systèmes d'alliance ou de vassalisation. Ils répugnaient à l'annexion directe. Ils ont créé très peu de provinces pendant les premières phases de leur expansion. Et on est à un moment, justement le premier siècle, où ça bascule. C'est-à-dire que, pour plusieurs raisons, les Romains ont l'impression que l'annexion directe est finalement plus efficace. Et alors, quand Pompée en Orient, il joue sur un mix, c'est-à-dire que Pompée finalement va créer assez peu de nouvelles provinces, il crée la Syrie, et le reste, il crée des royaumes vassaux. Et ce qui est intéressant quand on voit César, on peut penser qu'au départ, César ne veut pas annexer la Gaule. Comme le dit François, il veut instaurer une sorte de domination sous une forme de vassalisation. Il a créé une structure, le Conseil des Gaules, où il rassemble les délégués de la Celtique tous les ans, et qui pourrait être l'instrument de cette vassalité, si. Et qu'au départ, il fonctionne comme ça. Pas pour rattacher des territoires. Et c'est, en fait, la grande révolte de Vercingétorix qui lui montre que cette forme de domination, de contrôle informel, comme on dit maintenant, est inefficace, qui l'amène, je pense, à vraiment penser, il faut annexer directement, parce que là, vu la structure même du pays, un contrôle informel n'est pas efficace.
Alors vous parlez du César diplomate, mais j'y reviens, il y a quand même une part sombre. C'est quoi le César, je me tourne vers vous Stéphanie, c'est quoi le César génocidaire, le César de Pline l'Ancien qui dit, il a conquis toute la Gaule, il a gagné des millions, mais peut-on s'enorgueillir d'avoir commis un tel crime contre l'humanité, qui à ma connaissance d'ailleurs est la première occurrence du terme.
Oui, qu'il ne faut peut-être pas prendre dans le sens tout à fait contemporain, mais effectivement Pline fait un portrait très contrasté de César en disant que c'était un homme exceptionnel à bien des égards, et en même temps qu'il a fait, il a aussi donc un bilan extrêmement lourd, plus d'un million de morts.
Et autant d'esclaves.
Et encore, je ne compte pas les morts de la guerre civile, parce que ça, il ne les a pas comptabilisés, donc c'est beaucoup plus. Effectivement, là, il se rend compte, il fait état d'une échelle qui a vraiment augmenté dans ce type de conquête, c'est-à-dire que il y a eu des massacres de populations gauloises diverses.
Ou germains, les usipètes, les tanctères. Il y a une volonté exterminatrice parfois chez César.
Alors c'est pas une volonté exterminatrice. Alors d'un côté, c'est dans le droit de la guerre, on parlait du bellum iustum tout à l'heure, c'est pas inconcevable et c'est pas choquant dans l'esprit romain de tuer les populations civiles, puisque donc quand on fait la guerre à une population, donc c'est pas seulement les hommes en armes qui sont concernés. Dans le cas de ces deux populations de Gaule-Belgique, il a voulu marquer le coup, je dirais, pour faire un exemple et pour pacifier, nous dit-il lui-même, pour pacifier ces zones en disant, je vais supprimer jusqu'au nomen, jusqu'au nom de ces populations. En réalité, vraisemblablement, il y en a qui ont survécu, mais on n'en parle pas trop. Donc,
effacer tout un peuple et effacer son nom, ça ressemble beaucoup à la définition moderne du génocide.
Oui, mais c'est, en tout cas, on est sans doute pas à l'échelle, pour le coup. Donc, il faut distinguer le bilan général de toutes les conquêtes césariennes et le massacre de ces populations-là. Le terme de génocide est sans doute anachronique par rapport au génocide qu'on a pu connaître plus tard.
C'est très discuté à l'heure actuelle, cette question du génocide, mais ça rejoint quand même un aspect extrêmement important des campagnes césariennes en Gaule, qui est la dissuasion. C'est-à-dire, en fait, et ça rejoint la question qui était posée tout à l'heure sur comment a-t-il pu finalement réussir avec une armée aussi faible, c'est aussi parce qu'en gros, il cherche à frapper très fort, il cherche à frapper et à décourager de résister au fond et il montre les conséquences de l'affrontement avec les Romains.
Ça nous amène à la question de l'image de César, sa place dans la culture de l'époque, la culture politique, la postérité. On va écouter un bref extrait d'un opéra qui nous parle de cette ambition césarienne. Vous avez peut-être reconnu le Giulio Cesare de Handel au XVIIIe siècle. Alors pour parler avec moi de la place de César dans l'histoire, je me tourne maintenant vers Christophe Badel. Christophe, vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université de Rennes, spécialiste des questions politiques et sociales de la Rome antique. Vos recherches portent sur le modèle social de l'aristocratie. Vous avez publié un livre sur la noblesse de l'Empire romain. Vous êtes aussi l'auteur d'une biographie, allez disons-le, de référence sur Jules César et d'une synthèse sur la République, qui met l'accent sur l'idée d'une culture politique enracinée dans les valeurs de l'éthos nobiliaire. Donc nous faisons un grand bond en avant dans sa biographie. Quelle est l'apothéose de César, selon vous? Est-ce qu'on pourrait situer ça peut-être au moment du quadruple triomphe de 46?
Oui, c'est sûrement le quadruple triomphe de 46, où il triomphe à la fois sur les Gaulois, sur l'Égypte, sur le pont, et enfin sur l'Afrique, la Numidie. Donc c'est vraiment là l'apogée de sa carrière, étant donné que le dernier triomphe, celui de 45, qui célèbre après sa victoire en Espagne, est au contraire très très mal ressenti par les Romains, puisque là, il met en valeur ses victoires non pas sur des peuples étrangers, mais sur les Pompéiens, sur les derniers républicains, ce qui est très très mal vécu par les Romains. Il y a un côté un peu glauque, en quelque sorte, du dernier triomphe de 45. Alors, 46, c'est vraiment la fête, d'autant plus que César a organisé des festivités magnifiques à Rome, et par exemple, il offre un banquet public à donc 200 000 personnes, ce qui grosso modo doit correspondre à l'essentiel des citoyens romains. Donc c'est vraiment un très grand moment.
C'est une célébration sociale ou il y a une dimension religieuse dans le triomphe romain? Comment se déroule d'ailleurs un triomphe de général romain?
Alors le triomphe a d'abord une dimension religieuse. Il a évolué au cours du temps. On pense qu'il vient au départ d'une cérémonie étrusque, plutôt de nouvel an, avec l'idée d'une régénération pour nouvelle année. Mais à la fin de la République, le triomphe renvoie à une sorte d'acte de grâce envers Jupiter. On remercie le dieu Jupiter d'avoir accordé la victoire aux Romains. Et donc le cortège triomphal se termine au temple de Jupiter, sur le Capitole, où le triomphateur vient déposer sa couronne de laurier sur les genoux de la statue et le remercier de sa victoire. Donc il y a une dimension religieuse très très forte.
Et est-ce que, selon vous, c'est la première irruption du religieux dans la célébration de la conquête, ou est-ce qu'on peut considérer que finalement les supplications qui ont eu lieu tout au long de sa carrière, enfin à différentes étapes de sa carrière, sont déjà le signe d'un mélange finalement entre la célébration militaire et la célébration religieuse ou culturelle?
Ah oui, non, c'est à Rome, c'est depuis l'origine. Il y a en effet un lien intrinsèque entre religieux et militaire. Les Romains disaient qu'ils avaient conquis le monde parce qu'ils étaient les plus pieux des hommes. Donc c'est leur piété récompensée par les dieux. La définition de la guerre juste tient d'abord au respect de certains rites religieux, et là-dessus il faut faire attention. La guerre juste n'est pas tant liée à des motifs qui seraient respectables ou moraux, tels que nous la voyons, mais plutôt au respect d'un certain nombre de rites religieux qui renvoient au respect des dieux. Donc par définition, les Romains ne séparent pas le religieux du militaire, comme d'ailleurs l'a déjà dit François.
Et en termes de célébration culturelle, quelles sont les premières traces, à l'époque de ses contemporains, ou juste après d'ailleurs, d'une vraie célébration culturelle de César ? Que ce soit dans les textes, que ce soit dans les statues, à quel moment on commence à dire « cet homme est un surhomme, cet homme est un conquérant,
il faut
un demi-dieu » ?
Il faut s'entendre par ce qu'on appelle culturel. Quand on voit les sources, déjà de l'Antiquité, bon, les biographies, on peut estimer que ce sont encore des... comme Plutarque et donc Suétone, que ce sont en effet encore des sources, je dirais, historiques, hein, documentaires. Mais quand on se tourne vers le poème, donc La Pharsale, poème écrit par Lucain à l'époque de Néron, qui n'est pas une œuvre qui se veut historique, hein, même si elle s'appuie tout de même sûrement sur une documentation, donc on peut la parler d'œuvre culturelle, et c'est peut-être la première grande... poème, œuvre épique, dont César est l'un des héros, mais pas le héros positif. Hein. C'est au contraire le héros négatif. Pompée lui est préféré, hein, très très concrètement. Et d'autre part, la Pharsale joue aussi sur l'opposition avec Caton. Donc Caton représentant la pureté et César plutôt le vice. C'est peut-être le premier exemple frappant d'œuvre que vous pourriez qualifier de culturelle, indépendamment de toute démarche historique qui mettrait César en vedette.
Mais en termes de statues, par exemple, en termes de... Quand est-ce que les statues de César apparaissent dans les rues de Rome ?
Alors, est-ce qu'il y en avait beaucoup dans les rues de Rome ?
Le Forum ?
C'est difficile à dire. Donc, ça pose le problème justement du portrait de César. C'est-à-dire que vous avez des statues de César qui sont d'époque impériale, dont on nous dit quels sont en effet de César, mais qui n'étant pas contemporains, ne sait pas quel modèle contemporain de la vie de César il pourrait se rapporter.
Et alors, il y a la statue de César, il y a aussi la fameuse statue que César aurait érigée de Cléopâtre, sa maîtresse, à côté de celle de Vénus, sur le forum qu'il fait construire. Comment est-ce que vous comprenez cette pensée de Pascal, cet aphorisme d'ailleurs si connu, si le nez de Cléopâtre eût été plus court, toute la face du monde aurait été changée? En quoi est-ce que Cléopâtre aurait pu changer le monde? En quoi est-ce que César a changé le monde?
Alors, je ne sais pas si Cléopâtre aurait pu changer le monde. Elle l'espérait sans doute en rétablissant l'annulation à l'Agide. Quant à son influence sur César, en fait, elle est discutée. Donc, on peut estimer que César l'a, en quelque sorte, instrumentalisé. Il l'a utilisé pour pouvoir soumettre le royaume d'Égypte, là encore, sans l'annexer, mais en ayant à sa tête quelqu'un de confiance, en quelque sorte. Hein.
Mais comment est-ce qu'un penseur comme Blaise Pascal, 17 siècles plus tard, peut encore considérer qu'ils ont changé le monde ?
C'est un autre aspect de la mémoire de César, c'est, je dirais, aussi l'amant célèbre. Dans l'image, le mythe de César tel qu'il va ensuite se diffuser au cours des siècles, vous avez quelques points forts. Vous avez en effet le conquérant, vous avez le tyran, et puis vous avez aussi l'amant célèbre ou l'amoureux célèbre avec le lien avec Cléopâtre. Du coup, Pascal l'a fait allusion à ce couple et à ce que ce couple aurait pu changer dans l'histoire.
Et donc César donc est emporté dans ses conquêtes, dans ses succès, jusqu'au moment où finalement qui l'assassine aux îles de Mars en 44 avant notre ère, ses ennemis ou plutôt ses amis finalement. Est-ce que c'est une espèce de contrepoison à son propre succès cet assassinat?
Alors il est assassiné par une coalition hétéroclite qui rassemble aussi bien d'anciens Pompéiens auxquels il a pardonné que des Césariens, donc d'anciens de ses lieutenants qui se retournent contre lui. Donc vous avez par rapport à cette alliance un peu étrange, deux interprétations. Une première interprétation, disons, de nature idéologique, à savoir qu'ils sont tous rassemblés par la haine de la royauté. Et même les partisans de César qui le soutenaient n'étaient pas pour un régime royal. Et puis, il y a évidemment l'interprétation beaucoup plus dévalorisante qui estime que c'est un ramassis d'ambitieux déçus, donc des deux côtés.
Et donc, ce qui nous amène un peu à sa place dans la postérité, est-ce que César, conquérant, changeur de monde, est un bâtisseur d'empire ? Est-ce qu'il est vraiment le père de l'Empire romain ? Ou est-ce que ça s'est fait un peu sans lui, au-delà de sa propre vision, quoi ?
Tout dépend ce que vous entendez par l'Empire romain. Comme François l'a dit, l'Empire romain, il a été bâti essentiellement avant lui, et il le sort encore après lui. Toutefois, on peut estimer que peut-être César est le premier à avoir une vision impériale de certains problèmes. Et la façon dont il a, par exemple, fondé des colonies de vétérans, non plus seulement en Italie, mais aussi dans les provinces, peut-être pour mettre en valeur certaines provinces, peut donner l'impression d'un homme qui ne voyait plus les problèmes simplement au prisme de Rome ou l'Italie, mais qui avait une vision plus large. Ça, c'est du point de vue, je dirais, de la gestion impériale. Alors, ça, c'est l'aspect territorial. Il n'a pas créé l'Empire romain. Il l'a, en quelque sorte, élargi, agrandi. On pourrait peut-être dire qu'il a créé l'Occident romain. Dans la mesure où il a agrandi de façon importante la portion européenne de l'Empire romain, en le portant au Rhin et à la Manche. Il a donné un poids continental à cet Occident romain qui va, évidemment, en additionnant la Gaule à l'Espagne et plus tard la Bretagne, crée un nouveau pôle régional de cet empire. Et du coup, si on veut se projeter dans l'avenir, Occident romain qui venant à l'origine de l'Europe actuelle.
Et dont l'héritage se poursuit jusqu'à quand, selon vous ? La chute de Rome au 5e siècle, la chute de Byzance au 15e, la chute du Kaiser et du Tsar, qui sont, rappelons-le, des héritiers par leur mot, par leur nom même de César. Alors là, jusqu'à quand poursuit l'héritage de César ?
On glisse vers l'Empire en tant que régime politique. Et pendant longtemps, on a pensé en effet que César était le fondateur du régime impérial. Et les Romains eux-mêmes le pensaient. C'est pourquoi Suétone met César en tête des Séviles des 12 Césars. Et dans ce cas-là, en effet, on peut estimer que son empire a duré 5 siècles si on s'arrête, disons, à la chute de l'Empire romain d'Occident, qu'il a duré 15 siècles si on s'arrête à la chute de Constantinople et la fin de l'Empire romain d'Orient, ou qu'il a duré 18 siècles si on va jusqu'au Saint-Empire romain germanique, qui se voulait l'héritier de l'Empire romain d'Occident et qui a été aboli par Napoléon Ier en 1806, donc 18 siècles. Bon.
Mais lui-même, évidemment, a abondamment repris la symbolique, hein, l'aigle,
oui, bien sûr,
la
bien
couronne
sûr,
de laurier.
Bien sûr, et ce que nous appelons l'Empire germanique, il avait le titre d'empereur romain. Et jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les empereurs dits germaniques allaient se faire couronner à Rome. Mais de nos jours, l'historiographie estime que César n'est pas le vrai créateur du régime impérial et que c'est Auguste qui l'est. Et là-dessus, en termes vraiment historiographiques, il y a eu un glissement qui fait que dans la réflexion historique actuelle, c'est Auguste qui est vraiment considéré comme le véritable fondateur. Et César, de ce point de vue-là, est, je dirais pas dévalorisé, mais son rôle est vu de façon beaucoup plus critique, certains pensant que ce n'est pas le visionnaire que l'on voyait au XIXe siècle, mais que c'est quelqu'un qui a tâtonné, qui ne savait pas bien où il allait. Un historien allemand a parlé de crise sans alternative pour la fin de la République, à savoir que les hommes politiques romains de l'époque ne savent pas exactement comment résoudre la crise, et que César est comme les autres, et que c'est Auguste qui va faire franchir le pas vers un nouveau régime.
Alors, vous cassez un petit peu du sucre sur le dos de César pour terminer cette émission. Je donnerai quand même le mot de la fin à Marc-Antoine, qui est sinon son plus fidèle ami, du moins l'un de ses plus dévoués.
Si vous avez des larmes, préparez-vous à les répandre. Ce manteau, vous le connaissez tous. Je me rappelle la première fois que César le mit. C'était un soir d'été, sous sa tente, le jour où il soumit les Nerviens. Regardez, voici la place par où le poignard de Cassius a passé. Voyez quelle déchirure a fait là le haineux Casca. Et voici le chemin que prit le coup du bien-aimé Brutus. Et quand il retira son fer maudit, voyez comment l'a suivi le sang de César. Comme s'il s'élançait à la porte pour s'assurer si c'était Brutus ou non qui frappait avec cette violence. Car Brutus, vous le savez, était l'ange de César. Soyez juge, ô Dieu, de la tendresse que César lui portait. De toutes ses blessures, ce fut la plus cruelle. Car au moment où le noble César le vit frapper, l'ingratitude plus forte que la main des traîtres acheva de le terrasser. C'est à ce moment-là que son grand cœur s'est rompu. Et alors, s'enveloppant le visage de son manteau, juste au pied de la statue de Pompée qui ruisselait de son sang, le grand César tomba.
C'était Jean-Pierre Aumont dans le Jules César de William Shakespeare, mis en scène par Jean Renoir en 1954 dans les arènes d'Arles, la ville césarienne par excellence. Merci Christophe Badel, François Cadieu, Stéphanie Villers d'avoir été avec moi pour décrypter le destin hors norme de Jules César, cet envahisseur qui a changé le monde. Vous avez écouté des extraits du film Jules César de Ouli Edel en 2002. C'était Les Envahisseurs, une émission d'Alfred de Montesquieu, préparée par Sophie Leiner avec les archives de l'INA, réalisée par Rafik Zénine, avec à la technique
Romain Lenoir. Vous pouvez retrouver toutes nos références bibliographiques et réécouter cette émission en podcast sur l'application de Radio France.